Bonsoir à tous, heureux de vous retrouver. Les portes du club s'ouvrent comme chaque mercredi. Qu'est-ce qu'il... Oui, bah, papy, là,
Oui. Papy a sa sacoche.
sa petite sacoche en bandoulière. Il est très heureux. Je suis très content de vous retrouver pour cette émission très très riche. On va vous présenter nos invités dans un instant. Mais voici pour commencer le sommaire de cette émission. Et voilà, on se retrouve comme chaque mercredi. On va passer en revue toute notre actualité d'hier et d'aujourd'hui. Avec Lola, elle nous enverra à la découverte d'une substance absolument mystérieuse dans une bande dessinée. Tandis qu'avec Arnaud, on repartira dans le passé de la création de TF1. Et bah ouais, de plein de petits personnages qui sont chics. Et puis, moi, j'aurai l'opportunité de vous rendre hommage notamment à un grand monsieur de la télévision, Jean Sagolz. Voilà, bonjour à tous les
Bonjour,
deux.
bonjour.
Comment
Bonjour,
allez-vous?
comment vas-tu?
Comment allez-vous, mes
Ça va
petits
très bien.
mignons? Non, dis-les, comment ils s'appellent, les petits?
Bah, les Tiffins.
Les Tiffins, voilà, les petits Tiffins qui sont là, mes petits Tiffins à moi. Comment ils vont tous les deux?
Mais...
Ça va bien?
Ça va et toi?
Bah oui, regardez.
T'es, ouais.
J'ai même ma besace.
Voilà.
Ma
On dirait que
belle
tu vas
besace.
nous distribuer le courrier de la semaine.
J'y vais, je regarde.
Voilà.
Alors pour toi.
Oui.
Bon, ben voilà. Merci les copains d'être avec nous et pour vous présenter cette émission. On accueille dans cette partie un groupe qui est venu exprès du Québec pour un concert qui a eu lieu ce week-end, à l'heure à laquelle vous nous regardez, mais qu'ils n'ont pas encore vu. C'est pour ça qu'on leur posera pas la question, tu vois. Comment était le concert de Dorothée, les costauds?
Oh, c'était incroyable.
J'ai adoré.
Tout était bien. L'intro, surtout, c'était vachement bien.
Oui.
Ouais. Non, ils sont venus exprès. Et c'est un groupe que vous suivez, je pense, régulièrement, si vous aimez l'univers de Dorothée, parce que ils reprennent depuis combien de temps? 10 ans?
Presque.
Presque 10 ans.
Depuis 2017. En fait, les tout débuts, mais disons que sur les réseaux sociaux, peut-être plus 2018, là, que ça a commencé à se promener un peu plus.
Ouais.
Puis, il y a eu une pause pendant la pandémie, mais quand même, si tu repars aux origines, ça fait presque 10 ans, là, qu'on baigne là-dedans.
Bon, qu'ils reprennent les chansons, les génériques, les dessins animés, tout. On va vous montrer à quoi ça ressemble tout à l'heure. Et puis, on va aussi évoquer l'arrivée d'une série culte sur Prime Video, parce que c'est la première fois qu'elle débarque. C'est le retour de Dallas sur Prime Video. Voilà, une série diffusée en son temps
Sur TF1.
sur TF1, évidemment. Non, mais tout est lié.
Tout est
Tout a
lié.
été particulièrement bien pensé dans cette émission. Mais je voulais qu'on commence cette émission en rendant hommage à une personnalité qui nous a quittés il y a quelques jours maintenant, une des grandes figures de la télévision. Puisqu'on parle de Dallas, justement, il a rapporté le format des feuilletons soap de prime time à la télévision chez nous, avec les sagas de l'été. Ça a duré pendant des dizaines d'années, et notamment avec les cœurs brûlés, les grandes marées, les yeux d'Hélène. Bref, c'est Monsieur Jean Sagoz. On avait eu l'occasion de le rencontrer, nous, il y a quelques années, mais pour lui rendre hommage, j'ai pu m'échanger cette semaine avec un des comédiens de ces séries. Je vous en parle dans un instant, mais vous le savez, on aime bien se replonger aussi dans les bandes originales, dans les extraits de ces moments-là, et là, c'est un extrait. Attention, la tension est à son maximum. Ça concerne justement le personnage qu'on va mentionner dans un instant, un petit extrait des yeux d'Hélène. Regardez.
Sont toujours séparés.
Mais par quoi?
Mais par la fatalité.
Mais je n'y crois pas!
Hélène, quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, soyez sûre que jusqu'au dernier moment, j'aurai pensé à vous.
Je vous en prie, ne partez pas!
Mais c'est pour vous prouver que je vous aime que je pars!
Dominique! Alors, Dominique.
Je me rappelle une chanson. Mais...
Dominique, non, mais c'est oh, c'est pareil.
Oui.
Dominique Volvani.
Pareil.
Donc, Dominique Volvani, qui est joué par Jean-Pierre Bouvier. Et il jouait aussi son frère, Frédéric Volvani, qui était une espèce de psychopathe. Et vous avez vu une dame qui est en train d'ausculter le bateau. En fait, c'est son frère, qui est déguisé en femme, qui se met une bombe sur le bateau et il va essayer de s'en prendre à son frère jumeau. Voilà. Et là, l'épisode s'est terminé sur l'explosion du bateau de Dominique Volvani. Tu te souviens de cette série, toi? Tu l'as regardée ou
Alors,
pas?
oui, pas du tout.
Non, je viens pas, c'est vrai. Je regardais pas.
Non, pour être franc, je suis passé à côté totalement de ces aventures estivales.
Bon, bah, si je rate quelque chose. Alors, l'histoire des grandes marées et des yeux d'Hélène, c'est une espèce de grand complexe hôtelier sur la Côte d'Azur, qui s'appelle la Réserve, qui est tenue par Mireille Darc. Et puis, évidemment, il y a plein de gens qui essayent de s'en emparer. Elle tient ça un peu de main de fer. Et à la fin de la première série, elle essayait de se débarrasser de sa rivale en lui aspergeant de l'acide au visage. Et sa rivale se défendait et l'acide lui atterrissait dans les yeux, elle finissait brûlée et aveugle, d'où le titre Les yeux d'Hélène. Mmh. Et là, elle doit faire face à des gens qui veulent s'emparer de son territoire, et ce sont notamment les frères Volvani. Et bien justement, j'ai eu l'occasion cette semaine de rencontrer et d'échanger avec Jean-Pierre Bouvier, qui a été Frédéric et Dominique Volvani dans Les yeux d'Hélène. Et on l'a pu l'avoir au téléphone. Et justement, on va vous en proposer un petit extrait avant de vous proposer l'intégralité de l'interview sur le site de VL. La première question que j'avais envie de poser à notre ami Jean-Pierre Bouvier, c'est comment justement vous avez été casté pour ce double rôle, celui des frères Volvani.
Pour cette série, les deux d'Hélène, s'il fallait trouver le même comédien qui jouait les deux, parce qu'au départ, il n'était pas prévu ça. Au départ, c'était prévu qu'il y ait deux acteurs pour jouer les deux frères Volvani. Et donc, moi, le deuxième cœur que j'ai eu, c'est quand j'ai lu. Et je me suis dit, oh là, putain, c'est tout ce que j'aime, c'est-à-dire cette littérature populaire, mais de haut niveau, quoi. Comme Faux-Semblant, avec Jeremy Irons.
Ouais, tout à fait.
À partir du moment où c'était des scénars très bien écrits, et puis j'avais rencontré le scénariste, comment il s'appelait, Jobert. J'étais allé le voir à Trouville, là où il habitait, et puis on a beaucoup parlé, et puis après, ben, j'ai passé les essais, j'ai été pris, et à partir de là, j'ai dit à Jean, ben, écoute, moi je pose une petite condition, c'est que le tournage va durer longtemps, il y avait, je sais plus combien, 8 épisodes, je crois,
9.
Ça va durer 5-6 mois, je demande simplement à ce que la production ne me loge pas dans un hôtel avec l'équipe, mais je veux être à part. Je veux rester dans ma bulle, pouvoir me concentrer et pouvoir... Parce que je savais dans le plan de travail que Jean m'avait montré, je savais que j'allais, dans la journée de tournage, j'allais passer de Dominique à Frédéric tout le temps. Tout le temps. Donc, ils avaient prévu à chaque fois 10 minutes de changement de costume, de maquillage, de trucs. Mais bon, ça, c'est au départ. C'est prévu au départ. Et puis après, on sait très bien que sur le plateau, il y a deux assistants qui disent, allez, putain, vas-y, merde, t'es pas prêt encore. Voilà. Donc, je me suis dit, si jamais je me prépare pas psychologiquement, voire psychiatriquement, à cette gymnastique-là, mais comme un sportif de haut niveau, je vais être foutu, quoi, je vais être baisé. Et puis, et j'ai bien fait parce que je suis rendu compte que, à un moment donné du travail, j'avais tellement travaillé de mon côté, seul, chez moi, partout. J'en rêvais, que j'avais tellement travaillé qu'à un moment donné, et c'était Michel Bouquet qui m'avait soufflé ça un jour sur le tournage des Colonnes du Ciel, il m'avait dit, tu vas voir, si tu travailles bien, le personnage il va parler à ta place. Oui. Et puis, c'est ce qui s'est passé. C'est-à-dire que j'arrivais, et puis dans les 10 secondes qui précédaient le « allez, moteur, on y va », paf, un des deux personnages était là. Et après, j'ai pu... j'ai pu dérouler plus tranquillement, quoi. Avec plus de sérénité et de...
Et justement, pour ce rôle-là qui était important, il fallait que ce soit over the top en matière de rebondissement, et en même temps, il fallait jamais que ça tombe dans le grotesque. Comment ça s'est passé justement au niveau de la direction d'acteur par Jean Sagol?
À partir du moment où il avait décidé avec la fiction de TF1, avec Claude Givray, de me prendre moi, il m'a fait confiance. Il savait quel était mon parcours de théâtre, qui était quand même assez conséquent.
Ah oui.
Et donc... Il m'a dit je n'aurais pas pris un acteur qui n'ait pas fait de théâtre pour ça, pour jouer ça, c'était impossible, je me serais ramassé la gueule. Donc il m'avait dit, tu sais, je te laisse faire, vas-y, je te ferai signe, si c'est trop, je te fais signe, si c'est pas assez, je te fais signe, mais vas-y. Et bon, et c'était très intelligent de sa part, très intelligent, parce que c'est une mise en confiance totale. Si j'avais pas travaillé, oui, ça aurait été dangereux, parce que là, il m'aurait dit non, écoute, tu parles? Je ne sais pas du tout. Bon, il savait que j'avais beaucoup, beaucoup travaillé. Et puis, il agissait, comme vous dites, c'était plus en chef d'orchestre qu'en directeur d'acteur. Voilà. Et donc, comme lui-même est acteur, je le voyais derrière la caméra, il jouait.
Oh, oui, bien sûr.
Il jouait mes deux trucs, il jouait, voilà. Donc, c'est tout qu'il a. Il m'a fait confiance et puis jusqu'à la fin il y a eu mais même par moment il me demandait, il me dit, qu'est-ce qu'on peut faire là, si tu veux pas qu'on change le truc, vas-y allons-y. Et alors ça enrageait toute l'équipe parce que quelquefois il ne prévoyait rien parce que c'était tellement énorme comme plan de travail, il n'avait pas le temps de préparer, il n'avait pas le temps. Et donc on arrivait sur le plateau. Tout le monde dit, alors, ils sont fait, on met un travelling, une caméra, deux caméras, ils sont faits. Et puis, et ils disaient, bon, attends, on va la jouer tous les deux, la scène, on va la jouer tous les deux. Et on l'a joué tous les deux, et hop, là. Et puis, à ce moment-là, il dit à son assistant, bon, mais t'as vu? Ben, tu mets la caméra là, puis c'est tout, puis on fait un travelling, voilà. Mauvaise foi. C'est ce que j'avais prévu, quoi. Les mecs, pourquoi vous m'emmerdez, là?
Évidemment.
Et justement, vous avez poussé le vice, puisque ces deux frères sont particulièrement différents, l'un est un champion automobile et l'autre est un peu un homme d'affaires psychopathe. Vous avez changé la diction de chacun de vos personnages pour qu'ils soient différents l'un et l'autre. Comment ça s'est passé?
Ouais. J'ai beaucoup travaillé ça. J'ai beaucoup travaillé. Mais ça, c'est un travail très anglo-saxon. Moi qui ai fait des stages là-bas en Angleterre et tout, on nous apprenait ça beaucoup, de se servir de nos voix comme d'un instrument normal. Et de pas avoir peur, et donc de pas avoir peur, surtout c'est en France, dès qu'on commence à aborder une composition, enfin entre guillemets ce qu'on appelle des trucs de composition, et qu'on va comme ça dans la voix machin, on dit non qu'est-ce que tu fais, non simple, je dis non joue pas ouais mais c'est l'avantage avec Jean Sagos, c'est que lui adorait ça aussi, ce genre de travail très anglo-saxon, très de composition, il me laissait faire beaucoup. On avait, ce matin, on avait décidé pour Frédéric Volvani d'avoir cette voix, tout ça, un peu d'Asgard, et avec l'autre. Mais donc, je vous dis pas la gymnastique vocale que ça entraînait dans les tournages.
J'imagine.
Oh, putain, de se passer de ça à, Frédéric, arrête. Mais non, pourquoi tu me parles comme ça, là?
Et justement, dernière question, dans ces séries, la particularité, c'est qu'il y avait toujours de grands acteurs. On a parlé de Mireille Darc, Michel Duchossois, ou encore vous-même. Qu'est-ce que ça apportait à ces séries d'avoir des castings aussi riches dans les séries de Jean Sagol?
Notre génération, nous, on a eu la chance d'avoir des professeurs qui nous ont appris le lyrisme. C'est-à-dire, qui nous ont appris de choper une dimension à travers une interprétation. Ce qui n'existe quasiment plus maintenant. Si vous regardez bien, c'est pas une critique que j'aimais, hein, parce que c'est un constat. Le langage a changé, les mœurs ont changé, tout a changé. Mais le support du langage n'est plus du tout le même. Donc, on ne peut plus parler de lyrisme. Et c'est ce qui touchait les gens dans les séries d'été, c'était ça. C'était, ils n'arrivaient pas peut-être à le définir, tous ces spectateurs, tous ces spectatrices. Je me souviens très bien, moi, quand je voyageais, les gens m'arrêtaient dans la rue et tout, j'étais sidéré, je me disais, qu'est-ce qui se passe? Parce qu'il y avait cette dimension-là, mais qui n'était pas due à moi, c'était grâce avec Francis ou d'autres, à nos professeurs, ce sont eux qui nous ont appris ça, la dimension, c'est-à-dire de choper un truc dans la tête, dans la pensée, un truc qui fait que on est à la hauteur du sentiment de l'écriture de Jobert ou d'autres. On n'est pas dans l'imitation du quotidien.
Et voilà pour cette petite interview que je trouve vraiment géniale et assez intéressante, parce que ça nous définit un petit peu ce que c'est que, grosso modo, le soap opéra tel que les anglo-saxons l'imaginent, c'est-à-dire ce lyrisme qu'on met dans les personnages et ce côté qu'on peut avoir parfois un peu over the top, mais encore pas trop. Ouais. Voilà, l'interview complète de Jean-Pierre Bouvier est disponible sur le site de VL Media. Je vous invite à aller la voir dans la catégorie de la loi des séries, parce que vous allez voir qu'il nous parle vraiment de plus en profondeur de son travail avec notre ami Jean Sagol. Alors, petite info, parce que dans un instant, on va parler de générique avec nos amis. On parle d'un monsieur qui s'appelle Jean-Pierre Jobert, qui est le scénariste de ces séries-là. Et il faut savoir que Jean-Pierre Jobert, il a aussi signé des génériques de dessins animés et de séries. Et c'est lui qui, notamment, chante le générique culte de la série Arnold et Willy, par exemple. Personne dans le monde ne marche du même pas. Et même si la terre... Ben, voilà. Et alors, ça va bien. On va se lancer, là, les gars. On va se chauffer. Jean-Pierre Jobert. Et ce grand monsieur qui a été formé, notamment sur les grands soaps américains. Il est allé travailler, les rencontrer là-bas. Bref, on avait envie de pouvoir rendre hommage à Jean Sagol. Et on continuera d'ailleurs à en reparler indirectement tout à l'heure. En fin d'émission, on parlera de Dallas et son univers impitoyable. Dans un instant, je vous emmène à bord de l'Atlantis, c'est son vaisseau. Je vous emmènerai découvrir aussi une bande de doudingues qui se sont dit, tiens, si on reprenait les chansons que tout le monde connaît et on se les approprie, ils vont faire, je pense, résonner comme un tremblement de terre dans ce studio. Et joli, comme c'est lancé. C'est à vous dans 2 minutes, 3 minutes, les amis. Mais auparavant, c'est notre Lola nationale qui est avec nous. Parce que rien de tel pour se lancer avant de vous retrouver, d'avaler une petite substance pour être au parfum. Eh ben, c'est ce que tu vas faire aujourd'hui.
Eh bien, si vous avez aimé The Substance, je le dis parce que voilà.
Très bien prononcé.
Non, j'ai quand même un professeur extraordinaire à côté de moi. Si vous avez aimé The Substance, qui a été un film qui a vraiment, vraiment marqué.
Pour Alice Vargin.
Tout à fait. Qui est un film qui est absolument extraordinaire.
Joli.
T'arriveras pas.
Allez, c'est parti. C'est un film que j'ai beaucoup, beaucoup aimé. Parce que ça veut dire beaucoup de choses de notre époque, évidemment. Je sais pas si vous connaissez cette tendance de dysmorphisme Snapchat.
Non.
Est-ce que ça vous dit quelque chose?
C'est les filtres, non?
Ouais, exactement. En fait, c'est une tendance de plusieurs personnes à aller chez des chirurgiens esthétiques et à se conformer à ce à quoi ils ressemblent avec des filtres, en se disant « Ok, je me trouve super avec des filtres Snapchat ou Instagram, etc. Et ben, j'ai envie de ressembler à ça dans la vraie vie. » Et ça donne parfois lieu, ici on le voit dans ce film-là, à des scènes absolument extraordinaires. On voit un visage qui est déformé ici. Évidemment, l'idée, c'est ça. L'idée dans ce film-là, c'est justement de pousser en fait à l'extrême cette tendance et avec ce changement de regard par rapport au corps en fait qui a eu lieu quand même ces dernières années. Il y a un bon bout de temps maintenant, mais avec les téléréalités, avec les filtres, avec toutes ces choses qui tendent justement à déconstruire un peu l'image qu'on a de soi et d'aller moins vers le naturel, mais plus vers quelque chose qui a l'air de plus en plus artificiel, mais jusqu'à paraître faux ici dans ce film-là et d'aller vers quelque chose d'horrifique. Eh bien, j'ai trouvé la BD, si vous avez aimé le film, qui va vous plaire. Une BD qui s'appelle « Le complexe » de Lucie Albrecht, aux éditions Casterman, qui est une BD. Bon, je suis ressortie, j'avais un peu la nausée, j'étais un peu mal, je vous l'avoue. Mais c'est une BD qui est très intéressante, parce que... justement, on reprend un peu ce principe-là du film, d'aller dans l'extrême et d'aller dans quelque chose d'horrifique pour justement essayer de montrer à quel point en fait on arrive un peu aux limites de ce système-là et un peu aux limites de cette chirurgie qui tend à faire toujours plus, à gommer toujours les complexes. Et ici, en fait, on va suivre une clinique. Vous allez voir, mais
continuez là, oui.
Parfois, c'est vraiment affreux, mais justement, on va aller dans quelque chose comme Elephant Man ou des choses comme ça, où justement, on va aller.
Je pense à lui, à Ryan Murphy, à la
télévision. Oui, c'est ça, exactement. L'idée d'aller vraiment dans quelque chose d'extrême. Pour dénoncer, ici on le voit avec un dessin qui est absolument formidable. Je me suis retrouvée avec le même grain de beauté que la fille, j'étais là, oh là, ça me fait bizarre, est-ce que je me reconnais un peu trop dans cette BD, mais donc c'est absolument extraordinaire cette histoire de cette bande dessinée, parce que on va vraiment retrouver en tout cas cette idée là de l'horrifique jusqu'à la destruction absolument du visage, et on va suivre en fait les promesses d'une clinique qui va organiser un concours en disant vous pouvez gagner l'opportunité de gommer l'intégralité de vos complexes. Et donc il y a plein de personnes qui participent, il y a des gens qui achètent des lots et des lots et des lots pour être sûr d'aller sur cette île et dans cette clinique qui a l'air fabuleuse mais qui cache quand même des choses assez assez horribles pour arriver à leur fin. Et donc on suit 3 personnages qui ont gagné. Exactement. Et si on faisait un petit tour. Non mais on n'a pas de complexe, on n'a pas d'imperfection, voilà, on est parfait. Mais dans l'idée en fait, on va suivre.
C'est grâce à toi comme ça, tu sais.
Oh là là. Non, et on suit les 3 personnages qui vont partir sur cette île, qui ont gagné ce concours et qui petit à petit vont essayer de gommer tout leur complexe. Mais parfois, enfin vraiment, quand on dit gommer, c'est-à-dire que c'est remplacer un nez par un autre, c'est aller détruire les oreilles et puis on se rend compte que tout ça a un coût qu'ils n'imaginaient pas. Et donc on va on va partir sur cette île, dans cette clinique. Mais c'est absolument affreux, parce que non seulement, évidemment, il y a le côté, au-delà de cette histoire-là, il y a le côté dénonciation de quelque chose qui est très actuel, une espèce de tendance à aller justement vers la perfection et à gommer le plus d'imperfections possible, que ce soit à travers des soins. Ici, il y a évidemment... une réflexion sur les soins qui sont apportés à la peau, sur la chirurgie, sur les vêtements, sur tout ça. L'idée d'aller gommer le plus possible jusqu'à en fait une disparition de l'identité de toutes les personnes qui sont sur cette île. Et donc c'est une BD qui est hyper intéressante, qui reprend honnêtement, si vous avez bien aimé ces univers-là, notamment du film The Substance, ça peut être très très sympa à découvrir. C'est vraiment une BD qui est très bien faite, avec c'est très intense avec ces dessins-là qui sont absolument fou. Je vous donne juste un mini exemple. Pour rentrer dans la clinique et pour s'identifier, pour faire un soin, on prend l'identité de la bouche. Enfin, on a pris les lèvres et on les pose sur une reconnaissance de lèvres. Et c'est affreux parce qu'on voit vraiment le corps se détruire petit à petit, de pièce en pièce, de morceau en morceau. Et c'est faut pas le lire avant de manger parce que j'ai fait l'erreur.
Ou après. Voilà.
Ou après. Avant ou après. Éloignez ça d'un repas. Mais en tout cas, c'est une BD qui est géniale, qui s'appelle Le Complexe, de Lucie Albrecht aux éditions Casterman, vraiment très sympa, et puis qui fait quand même réfléchir pas mal sur notre société actuelle.
Ben oui, voilà, il y a des gens qui ont renoncé à leurs cheveux, oui, ce que ça a donné. Et maintenant, il a atteint la perfection.
Ben oui, c'est ça, c'est ce qu'il avait trop. Mais il y a un choix graphique aussi avec l'encre.
Très, très, ouais.
Ah ouais.
C'est soit les gants verts du chirurgien ou la peau rose, c'est ça.
La peau rose, et puis on voit. C'est ça, exactement. Et le sang, parfois, en fait, on va voir. Ben, on va suivre, en fait, ce personnage-là. Ils sont tous très différents, en fait, les héros de cette bande dessinée. Il va y avoir un jeune garçon qui veut absolument être parfait pour les réseaux sociaux, et donc lui il va aller mais jusqu'à l'extrême. Il se dit ok, j'accepte le défi, on va faire une soixantaine d'opérations sur moi en même temps, je lance le défi. On se dit bah non, en fait c'est pas possible, c'est une mauvaise idée. Il y a une dame qui veut récupérer un peu son mari, qui veut récupérer ses années d'avant, et puis cette fille qui se retrouve là en se disant je venais juste à la base pour mon nez, et puis qu'est-ce qu'on a fait de moi au final sur cette île. Donc voilà, je laisse du suspense quand même. Mais...
bah oui, il faut laisser le suspense, ça s'appelle Le Complexe. Ouais. Et on invite évidemment à le découvrir. C'est une BD qui ne vous laissera pas de marbre. C'est le moins qu'on puisse dire. Merci.
Ça me fait penser quand même à une tendance actuelle. J'avais vu un reportage il n'y a pas longtemps d'une jeune femme enceinte qui disait qu'elle allait se refaire le nez pour pas que son enfant ait le même nez qu'elle. Et on se dit, oula, quand même. Et c'est vrai que c'est tellement entré dans les mœurs que ça en devient pathologique.
Il va y avoir des gens hyper transformés qui vont donner naissance à des petits enfants. Ça sort d'où?
C'est moi qui l'ai fait, ce truc.
Mon grand-père, le roté.
Qu'est-ce qu'il est professionnel.
Ouais, la transition ultime.
Oh là là.
Magnifique. L'année de Dorothée. Voilà.
Bah écoutez, tous l'année de Dorothée, ça nous permet de venir au Cosso, justement. quel lancement qui est plein de muscles pour accueillir nos invités qui nous viennent spécialement du Québec. Et je vous invite à les découvrir avec ce premier extrait, l'Albator, le héros des années 80, 78 et 84. Il l'a même sur lui. Regardez un petit extrait de ce que ça donne, les costauds. Ah là là là, les garçons, vous êtes des doudingues, mais c'est exactement ce qui vous caractérise, parce que on aurait pu penser finalement à une bonne blague qu'on peut se faire parce qu'on a envie de kiffer en chantant, et je le sais parce que tous les ans pour l'anniversaire de Arnaud Manier chez lui, on s'éclate à reprendre le générique en tête, et on se dit, et il y a des gens qui vont bien trouver l'idée à exploiter ça, et vous en avez fait. Comment c'est né l'idée de se dire, on prend du kiff à chanter ces chansons-là, et ben on va en faire notre boulot, quoi, et on va s'habiller en hockey sur glace à côté d'un Power Ranger vert.
on était un peu en pause de projet, on était dans un autre projet avant, puis on cherchait des choses, puis on est tombé sur Bioman. Ouais. On connaissait pas, parce que nous, on vient du Québec, il n'y a pas Bioman, puis on a trouvé ça splendide.
C'était
t'arrives jamais à savoir si vous êtes sérieux quand vous
on a toujours un petit peu de
d'affection, mais on sait que c'est quiche, là, on se le cachera pas. Mais nous, on a vraiment ce qui nous a allumé, c'était l'aspect kitsch de Bernard Minet avec le costume et tous les mouvements. On a fait le green screen et tout ça, on a comme fait waouh, c'est fantastique. Là, on est tombé dans le vortex de Club Dorothée, ouais. AB, tout ça.
Vous connaissiez ou pas?
Par bout. On avait des morceaux, c'est-à-dire pas tout de suite pour les croissants, on avait...
Ah, oh, vous avez eu le sommet, oui.
On avait vu un peu ça, on connaissait
les chevaux, mais on connaissait comme Dorothée par la voix, mais sans savoir vraiment c'était qui. Mm-hmm. On était à peu près là. Mm-hmm.
Et donc ça donne évidemment des univers qui sont très... Alors vous avez même repris sur... On le verra tout à l'heure, il y a un album qui est sorti récemment, vous reprenez des génériques de dessins animés et de séries, et notamment une coprod avec le Québec, qui est Les Intrépides, dans laquelle il y a Laurent Dodge qui a fait ses débuts, en tout cas, et que on aura. Mais on va peut-être écouter un extrait, cette fois-ci audio, que vous nous avez confié, une reprise. Alors les gars, vous y allez pas de ma mode, parce que, bon, on peut se dire, s'attaquer comme ça, des génériques sympathiques. Mais Lionel Leroy, il faut y aller, les génériques de Goldorak, c'est pareil, ils sont avec des gens qui ont des voix très puissantes, ouais. Et il faut le tenir, ça donne Goldorak le Grand. Écoutez, voilà ce que ça donne.
Qui est-il? D'où vient-il? Ce merveilleux génie de l'infini!
Eh, vous savez quoi? Allez, c'est signé. Sixième costaud. Je serai une gueule. Voilà.
Sixième, septième, huitième. On va être 20.
Franchement, des fois, j'ai l'impression de me dire, j'écoutais mes 45 tours dans ma chambre et je l'ai passé en accéléré. Et on a l'impression que c'est un peu ça parfois.
Ouais.
C'est... Jusqu'à quel point la démarche elle est sérieuse, parce que quand on l'a fait pendant 10 ans, elle est forcément sérieuse, et jusqu'à quel point c'est aussi une bonne blague?
À la base, c'était une blague. Au début, on s'était dit un été, 2-3 concerts, on passe à autre chose, on retourne dans l'autre groupe. Finalement, c'est ça qui a pris
groupe.
Le dessus.
Il y a un autre groupe.
Oui, qui s'appelait Skieur Fluo. Les pouces en avant, les pouces en avant, les coudes en arrière. C'est une vidéo, c'est toi.
Ouais,
c'est vous
qui le dire. Ouais, c'était moi. Il y a quelques millions de vues.
Oui, des
vues
quand même. C'est toi qui
fais
ça.
Ouais. Faut pas le dire.
Faut pas le dire, mais oui.
Donc, finalement, de fil en aiguille, on a fait un petit vidéoclip pour Bioman, des choses comme ça. Puis, wow, ça s'est mis à marcher. On a gagné un concours au Québec pour la chanson « Allô, allô, monsieur l'ordinateur ». Là, on s'attendait pas à ça. Fait que là, on a comme été dans une compile connue au Québec avec ça. Même chose, on nous a fait un clip avec ça. Ça a lancé. Puis là, on était surpris les deux. Que la blague prenne vraiment, elle devienne sérieuse. Là, t'sais.
Puis, faut dire, au début, on était un peu plus dans l'imitation. C'est-à-dire, le ton du premier album était très synthé années 80. Mais quand est venu le temps de faire des spectacles, on s'est rendu compte qu'avec une vraie batterie, puis avec plus d'énergie, puis c'était devenu plus organique. Donc, on a un peu développé notre son, comme on a entendu dans les extraits, que là, on est plus... c'est vraiment du hard rock assumé, mais au début, on était plus dans du cheesy. On avait fait la merguez partie aussi, qui avait été un gros hit.
je vais vous poser la question cash entre nous, parce que je suis obligé de la poser, parce que il y a peut-être des gens qui nous regardent et qui adorent ces univers-là, qui vont m'en vouloir si je vous la pose pas.
Ouais.
En allant sur le hard rock, vous n'avez pas peur un peu d'aller aussi sur le terrain de Bernard Minet qui s'y est mis aussi un petit peu ces derniers temps?
On était... Le hard rock a commencé un peu avant que Bernard Minet Metal Band arrive.
En fait, c'est lui qui nous a copié.
Oui, c'est ça.
Moi, c'est le petit. Mais en même temps, on a un répertoire...
Bernard, si tu écoutes, je t'embrasse.
En même temps, on a un répertoire très complémentaire. C'est-à-dire, depuis que Bernard Minet Metal Band existe, les génériques de Minet, on les met moins de l'avant.
Ah, oui, c'est ça.
On va ailleurs, on a fait Inspecteur Gadget. Puis nous aussi, veux pas, on a un peu une double identité. C'est-à-dire qu'au Québec... On a gardé les plus grands succès, Merguez Party, Bioman, Allo Allo, Tremblement.
J'ai jamais cru entendre dans une même phrase, les plus grands succès, le best-of. Ouais.
Non, mais c'est celle-là qu'au Québec, elle fonctionne. Mais
j'allais vous dire, comment vous faites pour toucher le public? Parce que, ok, avec Internet, aujourd'hui, on peut toucher le public du monde entier, mais vous le disiez vous-même, vous n'avez pas forcément connu toutes ces générations-là. On imagine que vos copains là-bas, c'était pareil. Donc, comment on les intéresse à quelque chose qui, a priori, ils sont pas familiers?
C'est vers là que j'allais, c'est-à-dire, on a élargi le répertoire des costauds pour couvrir les génériques qui ont marqué le Québec. Donc, en spectacle au Québec, c'est pas 100% Dorothée. On en garde quelques-unes. On a des petits morceaux, mais on fait des génériques québécois. Puis il y a des thèmes comme Goldorak, Albator, Capitaine Flamme, c'est connu aussi au Québec. Inspecteur Gadget au Québec, c'est un grand hit. La bande à Pikachu. Tortue Ninja.
Picsou, c'est le plus puissant de tout Canaville. Picsou, Picsou, il vaut des milliards en or, en dollars. Picsou, ouhou, en suivant Fifi, Riri et Loulou. Ah, tu la ramènes moi là, hein,
On va l'enregistrer éventuellement.
Ah ouais, moi je suis aux anges quand j'ai découvert votre groupe. Il y a déjà quelques années qu'on se suit et tout. J'ai découvert ça avec envie. Là, c'est le un des derniers albums qui vient de sortir, c'est ça, Zap?
Il va sortir.
Il va sortir au mois de mai.
Oui, au mois de mai. Donc, je crois que c'est la première fois qu'on montre.
Je suis ravi.
Il y a un le dinosaure, c'est fait exprès, je suppose.
Et il est costaud, hein? L'album, parce qu'il y a beaucoup de titres dessus.
Il y en a 23.
Ah oui, il y en a 23 titres. Les Intrépides, c'est là que je l'ai entendu.
Oui, exactement, Les Intrépides est là. Mais c'est un album un peu plus centré pour le Québec. On l'a fait vraiment pour ce marché-là. Puis il va être en vinyle.
Ouais, il va être en
vinyle. C'est chouette, ça. C'est génial.
Il y a quelques chansons quand même qui est connue des deux côtés, là. Ben, plusieurs, en fait, là. Oui. Le tiers, la moitié. Mais on a, pour celui-là, les deux premiers, c'était beaucoup européen, tu sais.
Ouais.
Puis lui, le dernier, on a vraiment décidé un peu de donner au Québec aussi.
Oui.
Alors moi, j'ai un principe, c'est que par émission, j'ai une convention, je dois toujours citer mon copain Nicolas Crozel.
Oui.
Que vous connaissez bien, que j'embrasse, qui est journaliste aussi pour ici, en Bretagne. Mmh. Et Nico m'a dit, tu vas les rencontrer, tu verras, c'est des copains, ils sont géniaux. Et il m'a dit, ils m'ont même fait écouter quelque chose que je trouve super réussi, c'est le Tremblement de Terre. Que vous lui avez fait découvrir et tout. Alors on va en écouter un petit extrait, Le Tremblement de Terre de Dorothée. En plus ça fait la boucle avec notre ami Lionel GDB qui était là, parce que c'est lui qui avait réalisé le clip. Regardez, ou plutôt écoutez, et puis les deux quoi, profitez des costauds. Pourtant dans mon cœur, je sentirai un espoir, un bonheur.
cœur.
C'est quoi la fonction de chacun dans le groupe? Alors, on comprend bien que elle, c'est peut-être Dorothée ou pas, non, d'ailleurs?
Bon, c'était un peu casté à l'époque, là. Donc, oui, Mélissa, notre chanteuse, c'était Dorothée. Toi,
moi, je faisais Lalaïto, le sympathique Eric. Ouais.
Est-ce que tu fais des crêpes aussi? Ou...
Oui.
Tu fais du cassoulet.
Je perds souvent mon pantalon aussi.
Tous les pantalons sont disparus. Oh, oh. Moi, c'était framboisier, donc on m'avait vraiment... Ouais, ouais, non, pas autant que lui. Quand même, je sais vivre, on est en 2025. Non, mais les mœurs sont changées quand même.
Évidemment, évidemment.
Mais oui, après, Xavier, c'est Rémi.
C'est selon aussi les instruments. Ouais, on respecte un peu le code. Puis, ben, on a changé de joueur de batterie récemment, mais ça reste encore Bernard Minet, bien sûr.
Mais moi, je pense qu'il vous manque des gens dans ce groupe. Hein,
Ah, ben oui.
Vous mariez hyper bien tous ensemble. Enfin, les voix vont super bien ensemble, musicalement.
Vent.
Non, moi aussi.
J'avais préparé le contrat qui est en train d'être
un mec. Tu te maries hyper bien.
Oui, c'est ça.
Merci. On est des copains à la base. Hein, ça...
Ouais, vous connaissez ça... plus
ben, quand oui.
12 ans. Ouais. Quand oui, 12 ans d'années, nous deux.
Ouais.
Puis après, il y a des gens qui se sont greffés. En fait, notre bassiste puis notre drummer se connaissent depuis 20 ans.
Bon, donc, on a fait l'école de la musique ensemble, donc eux autres, ils étaient déjà soudés.
C'est ça, puis David est arrivé l'année passée, donc avant, on avait Alexandre qui était là il y a fait quelques années, le temps a fait que c'était pas toi, là, il y en avait
d'autres. Je manque un Alexandre, je l'ai dit! Alors, en plus, le Québec, enfin, franchement, moi, je...
Ouais.
Allez, go, ouais.
Je sais, on fait l'émission au Québec, après, les gars. Les...
Ah bah oui, absolument.
Avec plaisir, ouais.
On va vous trouver un logement.
Si ah, on arrive, ouais,
Moi, je voudrais bien un t-shirt, salut les costauds.
Les costauds.
Ah, on en a, en plus. Voilà. Enfin, pas ici, mais à l'hôtel.
À l'hôtel, on en a.
Mais oui, alors, vous avez créé tout un ensemble de... une signature
oui.
Avec les costumes, avec les albums, avec tout ça. Une vraie identité, à l'intérieur d'une identité qui est évidemment façonnée par les équipes d'Abbé, quoi.
Ben nous, c'est important de pas juste être un groupe de reprises, parce qu'il y en a beaucoup, là, hommage à Metallica, hommage à Iron Maiden, ils vont imiter. Mais nous, au début, on imitait un petit peu au début, puis avec le temps, on s'est dit non, faut qu'on existe à travers. Puis avec le temps, ça s'est peaufiné, on garde toujours des clins d'œil, vous avez vu dans Tremblement de Terre, le Korg, c'est le même clavier que Framboisier, la guitare à Rickenbacker, du clip, je sais, Histoire d'amour.
Ouais, c'est quand même une histoire qu'elle utilisait souvent.
Non, il y a qu'avec eux que je peux parler des chansons de Dorothée sans que avoir de dire. C'est pas album 1992.
Ouais, exact.
Une histoire comme on voit tous les jours, une histoire triste qui nous rend le cœur lourd. C'est une histoire comme dans les chansons, l'histoire d'une fille et d'un garçon. Ça rend le cœur lourd, très lourd. Une histoire d'amour.
On a un clip pour ça aussi.
Paradis, les gars.
La meilleure émission depuis.
Ah, mais c'est la meilleure émission du monde. Je savais qu'avec eux, je pourrais me lâcher et faire sortir le tigre qui est en moi. C'est... Et vous voyez faire ça pendant combien de temps encore? Longtemps?
Tant qu'il y aura de la demande. Parce que là, on s'est tout le temps dit, on fait un an puis on arrête après. Non, parce qu'au début, c'était pas ça devait arrêter au départ. Puis on s'est dit, ben là, au Québec, on veut pas, en ayant changé un peu le marketing, là, comme vous voyez sur la photo, bon, on n'est pas nécessairement dans le club Dorothée, mais on a élargi pour être la télévision en général. Puis au Québec, ça fonctionne de plus en plus. On a des dates tout l'été. Là, on a une dizaine de concerts cet été. Puis on a été capable un peu d'élargir aussi les auditoires. Donc on a peut-être des génériques des années 2000 maintenant, ce qu'on faisait pas avant.
Ouais.
Puis on a des génériques on fait Batman, là. C'est rendu là, le vieux générique de Batman.
Ah oui.
Les pierres à feu, tu sais. Donc on a pour nos parents, c'est le fun aussi qu'il y en a un petit peu pour eux. Puis on a un peu élargi pour le Québec, mais toujours avec un petit peu de Club Dorothée à travers.
Moi j'avais peut-être deux questions. Vous n'avez jamais eu de problème de droit d'adaptation? Les maisons de disques qui vous ont dit oh, non, ça vous touchez pas?
Sur le web, en tout cas au Canada, là, ça c'est les règlements au Canada, sur les plateformes d'écoute, faut créditer. Donc si tu mets le nom du compositeur, de l'auteur, de l'éditeur...
Tout passe quoi, ça va...
C'est redistribué par...
Et il y a le droit à la cover, je crois. Il y a le droit à la cover, à la reprise.
Peut-être qu'il y a eu aussi des restrictions.
Pour les albums physiques, faut avoir les permissions.
Ah oui,
l'album Zap dans le temps, ben ça a été une contrainte, donc on pouvait pas mettre n'importe quelle chanson.
Mettons Pokémon.
Pokémon, c'est pas ça, la compliqué. Trappe, malheureusement.
De l'autre côté, est-ce que vous-même vous êtes restreint en disant on le fera jamais celui-là, on fera pas ce générique, est-ce qu'il y a des choses que vous avez testées, vous avez dit non, finalement on laisse tomber
On y va un peu au feeling.
Ouais.
C'est un puits sans fond, hein. Il y en a des oui, c'est qu'on ça. Peut, oui, on pourrait continuer jusqu'à encore 20 ans. D'après moi, il y a toujours de quoi qu'on gratte. On fait, ah, ben oui, c'est bon, tu sais.
Il faut chaque année nous voir, voilà.
Comme oh, mais on est, ouais, ça,
mais... Là, vous êtes venu exprès pour voir Dorothée.
Oui. Oui.
Donc là, ils trépignent d'impatience parce qu'on l'a pas encore vu à l'heure à laquelle on enregistre cette émission. Mais vous êtes venu exprès pour voir Dorothée tous les deux. La chanson, que vous préférez de Dorothée, et peut-être que vous avez pas d'ailleurs encore repris, mais c'est quoi votre chanson préférée? Chacun. Ou une ou deux, allez, si vous voulez me faire plaisir. Ben,
moi,
allez-y.
C'est personnellement, c'est Tremblement de terre, donc c'est déjà fait, mais... Mais oui, c'est dans une de mes préférées, toi?
Ouais, tu sais, moi, les tunes, les chansons, tu sais, ou la menteuse, des choses un peu comme coquin, là, puis... tu sais, je les aime tous, la plupart.
Mais nous,
plus ceux qui sont rock. Là, ouais. J'ai un petit penchant pour
nous, on a un
rock,
penchant
là.
Pour ça, là, les détectives privés Dorothée Rock. Quand déjà, ça a déjà une énergie.
Dorothée, ne bougez pas, j'arrive. Dorothée, l'ambiance est explosive. Dorothée, je passe à l'offensive. Dorothée, et qui m'aimait, me suivez-moi. Je cours, je vole, je rock, je roule. Eh ben ouais. Voilà.
Donc on a une affection personnellement quand c'est déjà rock, puis quand elles le sont pas, on essaie d'adapter pour qu'il y ait toujours cette énergie là.
Et dans les génériques, le prochain défi que vous avez envie de vous faire en générique, que vous avez jamais fait encore.
Ben là, on avait parlé de Picsou, mais là on l'a déjà dit. On l'a fait. Qui est le prochain qui s'en vient, un défi.
Moi, j'atteins pas Ulysse 31.
C'est dur.
Ouais. Pour redescendre. Mais ouais, c'est une de, parce qu'en règle générale, je suis quand même capable de pas mal tout faire. Inspecteur Gadget est déjà fait, mais elle, je me souviens qu'elle avait été un défi.
Un petit peu dur, ouais.
De trouver le ton, là, le, hey, là, qui va là! À la Jacques Cardona. Mais là, j'ai été capable de trouver un peu la façon de le faire. Fait que c'est tout le temps un des gros hits. Mais ça avait été un défi. Je me souviens qu'on l'avait rentré. Elle était quand même,
Et des séries télé comme Starsky Hutch ou des choses comme ça pouvait être pas mal aussi. C'est du côté un peu plus adulte que les...
Au Québec, on a passé un peu du côté adulte. Ah. Moi, j'aimerais ça Arnold et Willy.
Ouais,
mais au Québec...
On en parle.
Mais au Québec, Arnold et Willy, c'est obscur, là. Ça a joué au Québec, mais comme pas longtemps, puis... Ça prend un certain âge là pour avoir eu ça, mais qu'est-ce que tu me racontes là? Moi et mon frère Mathieu, je le salue, il nous écoute sûrement. Quand on était au cégep, donc c'est le collège là chez vous, à 17-18 ans, on écoutait Arnold et Willy, pis on a comme embarqué dans cet univers-là absurde de sitcom. Mais au Québec, tu chantes ça, pis pas tant, c'est pas si connu que ça, mais peut-être si on revient en France. Ouais. Arnold et Willy, dans le côté adulte, on l'aime beaucoup.
Il y a d'autres génériques aussi, d'autres de Goldorak qui sont japonais tout le temps, un peu plus techniques, se sent prêt des fois à les affronter maintenant, là.
Les Chevaliers du Zodiac en version japonaise, ça
Ouais, exactement, c'est exactement le genre.
Bien sûr, ça.
C'est Bernard Minet y est allé, donc c'est c'est plus compliqué pour eux, j'imagine, de se glisser là-dedans, mais je sais pas, je pense Metal Dare, ça pourrait être bien. C'est assez puissant, Metal Dare, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bon, Jace, ça peut être compliqué, mais ça peut être sympa.
Toi, Jace, conquérant de la lumière, tu dois conquérir. Oh, je suis capable.
Ça va.
Metal Dare. Il y a masque.
Une vanne de Patrick Simpson-Jones, vous l'avez vu.
Sort de la terre. Conquérant de l'univers. Tu combats les méchants, venus du néant.
N'a jamais peur,
mais quoi qu'il puisse arriver. Héros grand cœur, tu n'hériteras jamais à tout sacrifier pour obliger les méchants à retourner au néant.
Apprendre
des paroles, c'est pas compliqué pour nous, hein. On est des éponges.
Et là, je peux vous dire que Nicolas, qui est en régie, se dit, pourtant, je pensais avoir rien pris ce matin. Et là, je me dis que c'est l'impression de faire une émission sous acide. On va vous donner des suggestions.
Ben oui.
De petites thématiques à reprendre grâce à Arnaud. Ouais. Parce que Arnaud, il replonge dans plein d'archives différentes et vous allez voir des thématiques liées à l'univers de TF1. On reste grâce à lui, pour la dernière partie de cette émission. Avec plein de choses que tu nous as apportées.
Voilà, alors il y a un point commun dans tout ce que vous voyez devant nous, chacun, c'est que Il y a une dame derrière tout ça, une grande dame qui, que j'ai eu la chance de rencontrer plusieurs fois à l'époque de son vivant, dont on va bientôt fêter l'anniversaire de naissance, puisqu'elle était née le 20 avril, et c'est Catherine Chaillet. Et Catherine Chaillet mérite d'avoir toute notre attention, puisqu'elle a, elle a forgé plein de petits souvenirs dans nos têtes qui sont encore bien présents aujourd'hui, dont bien évidemment l'identité graphique de TF1, la chaîne TF1. Oui. Mais je voulais la mettre à l'honneur, parce que elle nous a quittés en décembre 2024, donc on n'a pas eu tellement dommage que ça à la télé. Je trouvais ça vraiment regrettable de ne pas l'avoir autant souligné son talent. Et elle est née en 1933, et dès l'âge de 20 ans, elle entre du premier coup, elle a le concours des Beaux-Arts, donc ce qui est assez rare quand même, parce que souvent on se fait recaler plusieurs fois. Et elle vise au départ des études d'architecte, et très rapidement, bon bah il faut gagner sa vie, elle est étudiante, elle a 20 ans, et elle se rapproche d'un homme, Alain Lalonde, qui est un grand industriel du textile, et qui lui dit, bah écoute, tu n'as qu'à faire des dessins, mais sur des motifs sur des tissus. Et petit à petit, elle entre comme ça dans la mode, et devient créatrice de mode et jeune styliste en vogue. Il faut savoir que donc on arrive petit à petit dans les années 55-57, et là elle rencontre le directeur d'Hermès, qui lui dit, tiens, tu pourrais pas me faire un sac? Et elle fait un des tout premiers sacs qui était très connu, qui s'appelait le sac Constance, qui était, elle était enceinte à cette époque-là, c'était le nom de sa future fille, Constance Chaillet, qu'on fait un petit coucou au passage. Et donc ça, petit à petit, bon bah elle a lâché l'architecture pour de bon, pour devenir styliste, aux côtés de Paco Rabanne par exemple, qui était à la même époque, enfin c'est vraiment du même niveau. Et cette grande dame donc a poursuivi sa carrière comme ça sans trop l'avoir décidé, et elle a commencé à designer des choses, et puis petit à petit la télé a fait appel à elle, et elle est entrée donc dans les années 70, en 71-72, il y avait la troisième chaîne de l'ORT, voilà, qui s'appelle donc C3, et c'est elle qui a fait donc qui a mis en place toutes ces couleurs, toute cette énergie, et qui a mis aussi en cette notion d'habillage télé, puisque les chaînes n'avaient pas d'identité, et comme nous ici on a notre habillage du club avec tout ce qu'il y a autour, les jolies choses qu'on voit, eh bien elle a réussi à insuffler cette idée que pour faire fidéliser les clients, les téléspectateurs, il fallait qu'ils reviennent avec une identité qui se trouve chez eux. L'ORTF éclate fin 74 avec Valéry Giscard d'Estaing qui dit voilà, maintenant ça sera plus à l'État mais ça sera privatisé, et donc TF1 arrive, et tout naturellement, on va dire, elle se destine à créer ce logo qui est quand même assez à la fois très simple mais très difficile, et on a ces lettres qui s'imbriquent comme ça pour former le T, le F et le 1. Voilà,
on a peut-être une petite vidéo, à regarder.
Je vous ai apporté, oui, voilà, le générique, pour commencer, un des génériques les plus connus, les plus représentatifs, c'était l'émission. Donc, bien sûr, elle a fait plein de génériques en dessins animés. Et le premier qu'on va regarder, c'était Midi Première avec Daniel Gilbert. Qui passait tous les midis, voilà, à l'heure du
repas. Depuis à l'extérieur, souvent à l'extérieur, il se passait plein de choses. Voici un des premiers génériques qu'a fait notre.
On va reconnaître sa patte, ouais, directement. Voilà,
regardez.
Ah oui, bon, il y avait le petit début.
J'adore.
Mais, il y a tout un tas de codes comme ça graphiques qu'elle met en place, et bien évidemment à l'époque les images de synthèse coûtaient trop cher, donc c'était tout fait à la main. Elle avait une équipe autour d'elle qui pouvait commencer comme ça à dessiner. On lui demandait constamment en flux tendu elle a fait beaucoup de génériques télé.
Tu nous en as apporté plusieurs.
J'en ai apporté plusieurs pour qu'on regarde ça. Alors là, je me suis dit je vais faire les plus évidents comme Midi Premier, mais je vous ai apporté quand même des petites pépites parce que c'est mon rôle dans la sacoche. Là, il y en avait quelques-unes. Donc, je vous ai trouvé pour le 1er janvier 1977. Donc, c'était bien sûr ce générique-là culte qu'on connaît bien. Mais il a été revisité, notamment pour annoncer donc la nouvelle année. Donc, le 1er janvier 1977, il y a eu ça à la télé.
Bah, regardez. We'll be right back. j'adore, j'adore.
Voilà, voilà, donc le 6 est cassé, mais bon, du 6 est sorti le 7, en 1977, et c'est passé donc la première journée, donc parfois c'était fait que pour une journée, et ce même jour-là, il y avait aussi l'ouverture du journal télé, avec la musique de Claude Perraudin, que on tente le souligner, et c'était le journal de Jean-Claude Bouet, là, que je vous ai mis à 20h, et puis on avait ça.
Regardez.
Aussi.
Non,
et donc
rendez-vous compte, parce que ces pépites, ça c'est vraiment du petit moment de télévision, parce que les sons on les connaît, mais ces images là on les revoit plus du tout, donc c'est hyper touchant.
Ouais, c'était sa force effectivement, ce logo, il est fantastique, il aurait jamais dû partir, je pense.
Non,
il aurait dû
rester.
Mais il a été transformé après en lamelle. Il y a eu beaucoup de produits dérivés, bien sûr, parce que étant dans la mode, elle avait ce réflexe de dire tiens, on va faire des produits dérivés. Donc là je vous en ai apporté quelques-uns. Ayant travaillé pour Hermès, il y a eu des sortes de faux carrés Hermès, mais bon, siglé TF1, j'espère qu'on
on le voit bien.
Et d'autres choses, hein. Donc il y a, alors j'ai pas le droit de l'ouvrir, m'a-t-on dit, mais
non,
bon,
pas
bon,
malheur.
Pour la, non, bon. Et donc il y a eu des parapluies TF1, il y a eu les sacs TF1, il y a eu les t-shirts TF1.
Alors
ça, ouais.
Alors ça, parlons-en.
TF1, mais on en parle pas tout de suite. Et il y a eu des, donc ça, qu'est-ce que j'ai autour du cou depuis tout à l'heure? C'est un stylo. Stylo TF1.
Oh,
voilà.
Pour
les autographes. Et donc, il y a eu quand même cette petite guéguerre à TF1, parce qu'il y avait deux personnes qui étaient vraiment chargées des génériques visuels. Pour les enfants, c'était Hanofer, qui était donc la dame qui a fait L'île aux enfants, Casimir, en générique, hein, je parle, Les visiteurs du mercredi, et c'était vraiment dans la team Christophe Izard, mais dans tout le reste, TF1, on faisait appel à Catherine Chaillet, avec toujours des musiques vraiment souvent instrumentales. On regarde le suivant.
On y va ?
Ouais.
On y va. Allez, regardez.
Là, c'était Automoto.
Et Automoto qui a fêté ses 50 ans, hein, puisque elle a été menacée de disparition. En fait, elle continuera bien l'année prochaine. Là où Téléfoot s'arrête, en revanche.
Ouais, exactement. Il y a eu encore comme ça des choses qui ont marché. Donc, bien sûr, Automoto, c'était pour parler de magazine automobile et moto aussi. Et il y avait toujours cette, elle avait des thèmes récurrents. Donc quand je l'avais rencontrée plusieurs fois, j'ai eu la chance de beaucoup discuter avec cette grande dame, et elle était vraiment pleine d'anecdotes à chaque fois, et je lui disais, mais comment c'est que vous mettiez des jeux, il y a toujours des gens trépanés, du morphing comme ça, avec des trucs assez bizarres qui se transforment. Elle me disait, bah c'était comme ça, c'était l'époque, et souvent les enfants qu'on voit dans les petits passages, c'était ses filles. Elle a 8 enfants, et donc elle mettait alors je crois qu'elle a eu des garçons aussi, mais je sais qu'elle a eu beaucoup de filles, et donc elle les mettait en scène comme ça, et donc elle disait, bon bah si t'es passage, si tu manges pas, tu seras pas dans le prochain dessin animé. Ouais, génial, une grande dame.
On découvre d'autres ?
Un autre, oui, je vous ai apporté le 45 tours qui allait avec, donc c'était les découvertes, une petite pépite aussi. Qu'est-ce que c'était que ce machin-là ? C'était donc une sorte de premier radio-crochet qui a eu lieu en France dans les années 70, au milieu 75-76, forcément après la création de TF1, où Denis Fabre présentait avec Garcimore et donc mettait à l'honneur des gens qui venaient faire leur première télé et chanter, donc se faire découvrir sur TF1. Et donc,
c'est générique, regardez.
Voilà, donc
moi je trouve que c'est vraiment, ça a pas pris, quoi, ça marche toujours.
Ah oui, mais elle en a fait une quarantaine. Il faudrait faire une émission spéciale, la séquence du spectateur, etc. La suivante, c'était un jeu dans lequel Dorothée a commencé aussi à présenter, qui s'appelait Réponse à tout. Et là vous allez voir, il y a de la trépanation là, ça y est.
Ça y va, regardez. Ah ouais, pas mal.
Ouais, c'est rigolo. C'est
et de mémoire, le co-animateur, c'était la loi de Alcor. Dans...
Oui, c'était Pierre Guillermo et Louis Boson aussi qui était aux commandes. Catherine Chaillé, on la connaît évidemment aussi pour une chose, elle a créé ces petites mascottes qui sont devant nous. Tiens, voilà. On appelle les Tiffins, donc en rapport avec TF1, ça faisait Tiffin. Et dans le générique, vous savez, ils s'imbriquaient comme ça, le T, le F et le 1. Et donc, je vous apportais aussi. Et il y a eu une chanson, et c'était donc en 1977. On a eu l'idée de non il faut que tu les retournes pour que ça fasse TF voilà et donc il y a eu cette idée de encore plus identifier la chaîne. Antenne 2 par exemple avait ses petits A et ses petits 2 qui prenaient forme et qui ressemblaient à une sorte de petit serpent, le 2 et le ouais. A assez fort comme ça, et là les Tiffins ont eu leurs propres aventures et passaient tous les jours, c'était des interludes en fait, et il y a eu cette chanson. Donc là je vous ai retrouvé le clip, incroyable, grosse pépite aussi,
regardez.
Un soleil très gourmand s'aperçoit qu'il a mangé des croissants de lune tout rassis.
Ça ne fait rien, tout peut bien s'arranger. Dès que Tiffin paraît, dès que Tiffin est là pour nous sauver, nous savons qu'il y aura un miracle, même quand tout est perdu.
Ah mais c'est
mieux, c'est top, c'est sympa, c'est très mignon. Et puis il véhiculait des valeurs simples, familiales et positives. C'est-à-dire que quand on mettait TF1 dans la tête des gens, on allait passer un bon moment. Donc c'est quand même une idée à la fois très simple mais génialissime pour garder.
La bonne com.
C'est de la bonne com, surtout que TF1, la première chaîne était aussi avec les anciennes télés où il y a pas la télécommande. Dès qu'on allumait la télé, ça tombait directement forcément sur la une. Donc tout ça, voilà, était lié aussi encore une fois. Et
il fallait le savoir.
Il fallait le savoir. Et une dernière chose, pareil, une petite pépitasse de l'espace que je vous ressors, c'est que Catherine Chaillé a été aussi sollicitée par la publicité, et donc il y a eu les biscuits Prince, les casse-croûtes du goûter, et on va reconnaître tout de suite la touche Catherine Chaillé.
Regardez.
Un goûter tout rond au cœur tendre.
Le packaging.
Ouais, c'est
et je m'en souvenais même pas, tu vois, de ça.
C'est vrai, ouais.
Ah ouais, mais c'est trop beau.
Bah oui, oui. Et puis Catherine Chaillé n'a pas fait que ça, bien sûr. Elle a fait TF1, mais on s'en souvient, mais ça a duré un temps. Le logo après a changé avec les petites lamelles, etc. Mais elle a fait aussi, notamment le logo de Vivendi, le tout premier logo. Et puis elle a fait aussi le tout premier lettrage de Chéri FM. Sous fond rouge, écrit en blanc, comme ça, avec une lettre, un C très, très rond. Et ben, c'était elle aussi, voilà. Donc, merci Catherine. On pense fort à cette grande dame qui nous a beaucoup, beaucoup marqué.
Et on essaiera peut-être de refaire d'ici quelques semaines un deuxième volet sur Catherine Chaillet.
On peut en faire 10.
Il y aura encore de quoi
faire. Oui, alors, voilà. Allez, je le fais pour Catherine Chaillet.
Allez, vas-y, tu fais pour Catherine Chaillet, voilà.
Formidable.
Après, il y a des têtes à chapeau, il y en a d'autres. Hein. Oui,
Tête à Bob.
On devait vous parler de Dallas qui arrive sur Prime Video. On se regardera pour la semaine prochaine ou pour une prochaine émission parce que on avait encore notre Solitube et on arrive à la fin de cette émission déjà. Donc, on va vous faire découvrir, les garçons, peut-être quelque chose que vous avez envie de reprendre ou pas, je ne sais pas. Oui. C'est notre dernière pastille, c'est le Solitube. Le Solitude, on aime tellement ça qu'on le remet deux fois. C'est le moment où on réhabilite une chanson du passé. Et parfois, on se dit qu'on aurait dû ne pas le faire.
Injustement oublié.
Ouais, injustement oublié.
Voilà, là, je vais vous parler d'un groupe qui s'appelle Mistral. Est-ce que ça vous parle? Bien évidemment que
non.
Non. Voilà, donc, groupe hollandais, sorte de pépinière de talent avec des chanteuses parfois pas créditées ou pas. Mais ils ont fait une chanson qui est la plus connue, qui s'appelle donc Jamie. Chanté en anglais, Jamie Love, voilà, et cette dame se présente, mais...
Et ça donne sur la pochette J'aime, c'est ça?
Ça donne J'aime sur la pochette, voilà, qu'on va voir. Et la particularité de ce groupe, c'était les insectes sont nos amis, quoi. Ils étaient habillés comme ça, déguisés, et ça donnait des prestations extrêmement particulières à la télévision lorsque on les voyait. Je vous ai retrouvé un petit passage, évidemment, dans Midi Première.
Regardez, ça s'appelait...
Le Solitube.
Le Solitube.
Mmh.
On va le laisser, on va le laisser dérouler. Hein. Je suis sûr que vous adorez ça.
Bah oui,
non, mais ah,
c'est pour ça aujourd'hui.
Mais oui. Voilà.
pourquoi a-t-on oublié Jamie Love? Voilà. Donc,
je ne sais pas.
C'est, alors,
enfin, si je sais.
La chanteuse qu'on voit là, c'est Sylvie Van Asten, qui a une petite carrière en Hollande aussi. Mais
bon. Elle n'a pas duré, tu veux dire. C'est beau, bizarre.
Mais ça parle en plus de d'accouplement, quoi. Et donc après, il y a des chorégraphies où ils sont en train de se coller, et puis ouais. La suggestivité du costume fait que aussi on y croit. Enfin voilà, donc je voulais vous parler de ça aujourd'hui, le Solitube.
Jamie.
Belle trouvaille, là.
Ouais, attends.
Peut-être un challenge pour la semaine prochaine. Hein.
j'ai encore deux trucs dans mon sac, là.
Ouais, c'est vrai, il y a quoi? Attends, je regarde, j'ai fouillé.
Ça vous a plu, les garçons? Une petite reprise de Jamie, non?
Probablement.
Ouais. C'est là qu'on se dit que finalement, Dorothée et tout ça, c'est pas si mal que ça, hein, les gars. Mettez pas trop de...
C'est les costumes qui vont être durs à trouver.
Ah oui, bah oui.
Ça, c'est sûr.
Mais les refaire à l'identique, ça
pourrait... Non, ça,
bon.
Putain,
bon, d'accord, ok, très bien. Bon.
Alors, mais on pourrait faire un
non.
Non, oh, non, non.
Parce que là, on a que lui, c'est de vous écraser. C'est de vous écraser. Ne leur donnez pas trop d'idées d'un seul coup. Faut d'abord qu'on signe mon contrat. On est...
Ah oui, oui.
Voilà.
Vrai,
ouais. Le retour d'Alexandre dans le groupe.
Ouais. Ouais. Exactement. Non, mais je suis... comme ça. Je suis comme ça. En attendant, je rappelle que votre album Saut dans le temps, c'est ça?
Zap
le temps. C'est au mois de mai que ça sort.
22 mai.
Voilà, avec 23 titres dedans. Et vous êtes toujours en représentation un peu partout au Québec. Et puis sur les réseaux sociaux, vous pouvez les suivre, les costauds. On nomme quand même les trois autres membres du groupe. On l'a pas dit, on avait parlé de Mélissa, mais les autres membres, c'est qui?
Mélissa, Xavier à la basse et Dave à la batterie.
Très bien. Et nos deux, Simon.
Simon, voilà.
Qui étaient avec nous, qui vont aller profiter maintenant de leur passage sur Paris.
Bien sûr.
Pour découvrir la capitale. Et puis, on espère qu'un jour, vous viendrez à 5.
Ben oui.
Bien qu'on rencontre tout le monde. Et qu'on voit faut qu'on voit si ça fonctionne, vous voyez, entre nous, si la symbiose est là.
On vient vous voir.
Ou on
va aussi.
Simplement. Bon, ça va, je savais pas si t'es agréable que ça. J'arrive, je prends mes valises et j'arrive. En attendant, on les retrouve sur les réseaux, les lâchez pas, ils sont drôles, ils sont géniaux, et ils nous font bien plaisir en reprenant toutes ces chansons. Je rappelle aussi Le Complexe, le livre que nous a présenté Lola cette semaine, et puis Ambiance, et hommage à Madame Chaillet qui avait fait beaucoup de choses pour TF1. On se retrouve nous très très vite, les portes du club sont refermées, mais la semaine prochaine, restez avec nous parce que ce sera une émission XXL, on aura plein d'invités, une double émission. On va notamment rendre hommage à un grand monsieur de la caricature et de la BD qui s'appelle Gottlieb, et on devrait aussi rendre hommage à une autre figure importante de la chanson, c'est Joe Dassin, à la présence de son fils Julien Dassin qui sera avec nous. Voilà, merci à tous, on referme les portes du club et on pousse très fort grâce au costaud. Merci les gars, et je me suis éclaté à chanter avec vous, franchement.
Stéphane,
merci.
C'était tellement bien, c'est éclaté.
Je tiens à le dire, on aimerait venir faire des concerts l'an prochain, en 2027, donc on lance la perte, s'il y a des gens qui écoutent, qui peuvent nous trouver des engagements, on aimerait beaucoup.
Ouais, et j'en profite, je fais un gros coucou parce qu'il m'avait dit le plus grand bien de vous aussi, c'était éclaté à rencontrer, c'est Jean-Paul Césari, notre copain Jean-Paul Césari. Et voilà, il s'était fait un plaisir de vous rencontrer, il me l'avait dit. Donc voilà, on le salue, on l'embrasse, et il est toujours le bienvenu ici. Merci à Nico, qui était une fois de plus à la réalisation. Les portes du club se referment, et merci encore les gars, c'était vraiment, vraiment top.
Merci à toi.
À très vite, bye bye.
Salut les gars, merci.